Farid Zakaria, bonjour.
Bonjour.
Dans Retour vers le futur, vous dessinez le monde de l'après-pandémie tout en tirant 10 leçons de la crise qui secoue toujours le monde. Et il s'agit notamment de comprendre pourquoi des gouvernements ont réussi à combattre avec succès la pandémie alors que d'autres ont échoué. Et vous en êtes arrivé à la conclusion suivante. Il n'est ni question de tendance politique, droite ou gauche, ni de type de gouvernement, libéral ou état-providence, ni de degré de démocratie ou d'autoritarisme. Mais pour vous, l'aspect crucial, c'est la qualité du gouvernement. Vous nous expliquez pourquoi ?
Certainly. If you look at the countries that have handled this pandemic the best,
si vous regardez les pays qui ont le mieux géré cette pandémie, ceux qui ont vraiment décroché la médaille d'or, ce sont des pays d'Asie de l'Est, Corée du Sud, Singapour. Mais en tête, c'est Taïwan, 22 millions d'habitants et jusqu'à présent moins de 10 morts du Covid, alors que ce pays n'a jamais eu recours au confinement. C'est aussi le cas pour Singapour, la Corée du Sud et le Vietnam. Juste l'application d'un processus implacable. Tester, repérer les cas contacts et isolement. Pourquoi ça a si bien fonctionné? Eh bien parce que ces pays ont pu s'appuyer sur une bureaucratie d'une grande qualité composée de personnel très compétent, des technocrates, des scientifiques, une administration efficace, non corrompue, qui a maintenu une certaine flexibilité dans le sens où ils ont pu corriger leurs erreurs et qui entretient un lien de confiance avec sa population. Et c'est cette relation de confiance entre le gouvernement et la population qui s'est plus que toute autre chose révélée déterminante.
And it is this trust that has built in between the government and the population, and that more than anything else turns out to be the crucial issue. In some countries which have managed that in Europe,
certains pays en Europe, comme l'Allemagne ou le Danemark, ont aussi mis l'accent sur l'effort collectif. Bien sûr, pas à l'échelle des pays asiatiques. La France est un cas très intéressant, car malgré un gouvernement et un système de santé de grande qualité, c'est en quelque sorte une forme culturelle d'irrévérence à l'égard du gouvernement qui s'est imposée.
Of disrespect for the government. You know, I think that the French tradition of liberté is more important than fraternité. And so,
je pense que la tradition française de liberté est plus importante que la fraternité. De ce point de vue, la France et l'Amérique se ressemblent beaucoup. Le refus de voir qu'il était nécessaire de faire un effort collectif, d'établir un lien de confiance entre le gouvernement et la population, a pour conséquence que vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous souhaitez.
On le voit, un point essentiel a été donc la confiance ou non d'une population dans son establishment, dans ses experts, dans ses scientifiques. Pourquoi est-il devenu si compliqué, selon vous, dans certains pays, d'accorder une confiance aux experts ?
C'est un problème très intéressant et je pense que c'est une réalité qui touche avant tout l'Occident. Sur ce point, les États-Unis et la France ne sont pas très différents. En revanche, en Asie orientale, les gouvernements sont toujours respectés et ils sont perçus comme une élite composée d'experts dans le bon sens du terme, le sens originel, qui désigne des personnes plus diplômées, plus expérimentées, avec une meilleure expertise, dont on attend des directives. En Occident, cette classe d'experts est devenue une part du problème que nous avons. Nous assistons à une division croissante entre une classe urbaine, instruite, une classe d'experts, et une classe rurale moins diplômée. On peut parler de classe ouvrière. Et il y a un ressentiment profond et croissant entre les deux. Vous voyez par exemple aux États-Unis le phénomène Trump, en Grande-Bretagne le phénomène du Brexit, en France les gilets jaunes. Tous ces mouvements ont les mêmes caractéristiques. Les personnes qui protestent, qui expriment leur malaise, ce sont des gens qui vivent dans les régions rurales, qui sont moins diplômés, qui se méfient, voire qui en fait méprisent cette élite urbaine éduquée. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas écouter les experts, les conseils, même les conseils donnés par les scientifiques. Donc dans tous ces pays, la réponse à la pandémie a été altérée en raison de ce clash entre l'élite urbaine éduquée et la classe rurale. Et c'est parce qu'en Asie de l'Est, il n'existe pas pour l'instant une telle scission, que les gouvernements ont été en mesure de mettre en place des politiques plus collectives et plus homogènes que ce que l'on a pu voir en Occident.
Alors, que voulez-vous dire quand vous écrivez « Les gens doivent écouter les experts, mais les experts doivent aussi écouter les gens » ?
This divide has become very great, has become very poisonous.
Je veux dire que nous devons reconnaître que cette division est devenue grave et toxique, et ça repose sur nous, et je m'inclus dans ce « nous », et je vous y inclus. C'est à nous, les plus diplômés, urbains, appartenant à une élite, disposant de hauts salaires, de trouver les moyens de communiquer, d'établir un lien avec les gens qui ne sont pas dans la même situation, de ne pas regarder de haut cette partie de la population qui représente une grande partie du pays. D'autant que cette réalité structurelle a empiré avec le coronavirus, car ceux qui ont continué à travailler et à prospérer pendant la pandémie, ce sont ceux qui pouvaient travailler via Internet, donc les urbains, éduqués, qualifiés, diplômés. Les gens qui travaillent dans les fermes, les usines ou les commerces de détail ont trouvé cette période plus compliquée. Donc, c'est notre responsabilité de trouver un moyen d'établir des liens avec ces gens et de ne pas leur donner le sentiment que nous sommes condescendants à leur égard. Je pense que les experts et nous-mêmes ne portons pas assez d'attention à ce point.
À propos des États-Unis, vous écrivez « Ce serait facile de blâmer le président Trump, même s'il a sa part de responsabilité, l'histoire ne se résume pas à une Maison Blanche dysfonctionnelle. Pourquoi ?»
Well, because in the United States, and this is true in the United States and in some other countries in Europe.
Eh bien, c'est aussi vrai dans d'autres pays d'Europe. C'est parce que l'échec du gouvernement américain est le résultat de 4 décennies de Reaganisme et Thatcherisme. Je veux parler de cette philosophie qui se résume par ces mots célèbres prononcés par Ronald Reagan lors de sa prestation de serment en tant que président.
Government is not the solution, government is the problem.
Le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème. Si c'est ainsi que vous considérez le gouvernement, alors vous faites en sorte de réduire les financements, vous ne lui accordez pas de respect, de considération, vous vous en moquez. C'est ainsi qu'au fil des décennies, le gouvernement américain a perdu son sentiment de fierté, de compétence, de flexibilité. Le gouvernement américain est devenu en quelque sorte dysfonctionnel. Donc je pense que Trump a sa part de responsabilité, c'est certain qu'il a géré cette crise de façon effrayante, mais cela va au-delà de Trump.
For sure, Trump was a terrible president and he handled COVID terribly, but it's much broader than Trump.
Quels sont donc les défis que va devoir relever le président Biden?
Well, the short-term challenge is for Biden to assert the White House's control over this process and
le défi à court terme pour Joe Biden est de faire en sorte que la Maison Blanche reprenne le contrôle de la gestion de cette crise et d'assurer une coordination entre toutes les agences gouvernementales. Vous savez, c'est difficile de gouverner aux États-Unis et c'est en fait compliqué depuis leur fondation car l'obsession des pères fondateurs était d'empêcher l'émergence d'un régime tyrannique.
So in order to avoid tyranny, they made it so that everything is hard to do. Power is always checked, blocked, divided, separated.
Donc, dans cet objectif, ils ont fait en sorte de rendre tout compliqué. Le pouvoir est toujours contrôlé, bloqué, divisé. Donc, gouverner est vraiment compliqué. C'est ce que Biden essaie de faire et je pense qu'il y arrive bien. Son défi à long terme est de reconstruire les institutions et la confiance dans les compétences du gouvernement et leur permettre de fonctionner. Vous savez, c'est ce même gouvernement qui a été capable d'envoyer un homme sur la Lune, d'inventer Internet, qui a pu construire en seulement 5 ans tout le réseau d'autoroutes inter-État. Donc il appartient au gouvernement de tout faire, mais comme au fil des 40 dernières années, ce gouvernement a perdu ses compétences. Ce ne sera donc pas possible de les reconstruire en une nuit. Enfin, au niveau international, le défi de Biden est de reprendre contact avec le monde.
Concernant le contexte international, qu'en sera-t-il des tensions entre la Chine et les États-Unis qui se sont amplifiées pendant la pandémie ?
That's probably the most worrying aspect of this, because we really are, as I write, in a bipolar world. We are in a world with two superpowers now.
C'est sans doute l'aspect le plus inquiétant, car comme je l'ai écrit, nous sommes vraiment dans un monde bipolaire, avec deux superpuissances. Bien sûr, économiquement, les États-Unis sont numéro 1, la Chine numéro 2. Mais la Chine représente plus que les numéros 3, 4, 5 et 6 mis ensemble. C'est aussi le cas en matière de défense. Les USA sont numéro 1 en termes de dépenses, la Chine numéro 2. Mais les dépenses de la Chine dépassent les dépenses des 4 suivants additionnés.
We are in a world where these two are in a league of their own, and their relationship is going to determine the fate of the 21st century.
Donc, on est dans un monde où les relations entre ces deux pays vont être déterminantes pour le destin du 21e siècle. Soit ils décident de coopérer à un certain niveau et se joignent à un effort mondial, soit ils décident d'être en compétition, voire en guerre froide. J'ai vraiment l'impression que l'accélération de la compétition qui s'est opérée pendant la pandémie va nous conduire vers un monde où les relations seront de plus en plus conflictuelles et de moins en moins fondées sur la coopération. Et la vérité, c'est que c'est dommage pour tout le monde. Dommage pour la communauté internationale, car chaque pays va se retrouver impliqué dans les tirs croisés de cette guerre froide. Mais c'est aussi mauvais pour les États-Unis et la Chine. Car pensez à la guerre froide. Les sommes énormes dépensées dans la course à l'armement, à l'époque, c'était l'arme nucléaire. Cette fois, ce pourra être via les ordinateurs, dans l'espace, les cyberattaques. Tout cela va provoquer beaucoup de gaspillage, alors que les compétences pourraient être utilisées pour résoudre les problèmes mondiaux, tels que le changement climatique.
Thank you, Farid Zakaria. It was a great pleasure to have you on.
Thank you so much. J'ai vraiment apprécié cette conversation.